Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, l'évangile de ce jour termine le récit des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Toute la semaine, la liturgie dans les messes qui se sont succédées a fait défiler devant nous les divers témoins de cette résurrection. Jusqu'aujourd'hui, l'apôtre qui a même pu mettre ses mains dans les plaies de notre Seigneur. Et si l'Église insiste tant pour nous montrer que notre Seigneur est ressuscité avec son vrai corps, c'est parce que cette résurrection corporelle de notre Seigneur est le fondement de notre foi et elle est aussi le modèle de notre résurrection future. Il est quand même intéressant et même important pour nous de savoir dans quel état notre corps sera après la résurrection. Alors, comme l'Église insiste beaucoup sur cette question, continuons à insister. Pour dire donc d'abord que la résurrection est le fondement de notre foi. Vous connaissez cette parole célèbre de l'apôtre saint Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et vaine aussi est votre foi. Si nous n'avions d'espérance dans le Christ que pour cette vie, nous serions les plus misérables de tous les hommes. Bien sûr, il ne faut pas confondre le fait historique de la résurrection de notre Seigneur, qui a été constatable par les sens. Les gens l'ont vu, les gens l'ont touché, les apôtres ont mangé avec lui, bon, c'est quelque chose de sensible qu'on peut voir. Tandis que la foi, l'acte de foi, c'est autre chose. L'acte de foi concerne des vérités qui sont pour la plupart inaccessibles à nos sens et bien au-delà de notre raison laissée à ses propres forces. Ce n'est pas le fait de mettre ses doigts dans les plaies de notre Seigneur qui a donné la foi à l'apôtre Thomas. Saint Grégoire le Grand dit « Saint Thomas vit une chose et il en crut une autre. Il vit un homme et il confessa qu'il croyait à un Dieu lorsqu'il s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est parce que l'enseignement de notre Seigneur a été confirmé par sa résurrection corporelle que nous pouvons faire raisonnablement, avec la grâce de Dieu, le saut de la foi, c'est-à-dire que nous pouvons croire en tout ce que notre Seigneur nous a enseigné et qu'il nous a transmis maintenant par son Église et qui est bien au-delà de notre intelligence. Il ne faut pas confondre les deux choses. Mais la résurrection de notre Seigneur est aussi le modèle de notre résurrection future, parce que de la même manière que notre Seigneur est ressuscité au matin de Pâques, nous nous ressusciterons au dernier jour. C'est important à croire, évidemment, c'est essentiel, c'est un dogme de notre foi, nous allons encore le chanter dans le credo dans quelques instants. Et comme pour notre Seigneur, donc, puisque c'est de la même manière que nous ressusciterons, eh bien nous ressusciterons avec un vrai corps, non pas une sorte d'esprit évanescent, comme beaucoup de gens pensent d'ailleurs. Job, dans l'Ancien Testament, dit « Je verrai Dieu dans ma chair, je le verrai moi-même, je le contemplerai de mes propres yeux, moi et non un autre. » Alors évidemment, Job ici, à l'avance déjà, parle de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu lui-même, la Sainte Trinité, est un esprit. Nous ne pourrons pas le voir avec les yeux de notre corps, même après la résurrection. Par contre, après la résurrection, nous verrons avec les yeux de notre corps notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire. Nous verrons la Sainte Vierge, nous verrons tous les saints du ciel. Quel spectacle extraordinaire ce sera, et pour l'éternité. Comment pouvez-vous croire que nos corps ressusciteront, disent les incrédules, puisque depuis longtemps il aura été dissous dans la terre? Et par dérision pour le dogme de la résurrection de la chair, la franc-maçonnerie a répandu dans le monde l'incinération, comme pour empêcher le corps de ressusciter en dispersant ses cendres. Mais mes frères, notre corps est notre corps et pas celui d'un autre, parce que notre âme ne peut pas en avoir un autre. Donc, quand le bon Dieu, avec sa puissance divine infinie, redonnera à notre âme un corps, ce sera un corps semblable à celui que nous avons aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas en avoir un autre. Avec, bien sûr, en moins, les défauts que les personnes auront pu avoir sur Terre à cause de l'infirmité, à cause de la maladie, à cause de la vieillesse. Nous n'allons pas, bien sûr, être avec cela pendant toute l'éternité. Tout cela aura disparu, tous ces défauts. Ce sera un corps parfait. La différence, évidemment, avec aujourd'hui, c'est que ce sera un corps immortel, parce que spiritualisé par son union avec notre âme glorifiée par sa vision de Dieu face à face. Alors, pour savoir quel sera l'état nouveau de notre corps après la résurrection, c'est vers le corps glorifié de notre Seigneur que nous devons nous tourner, puisque l'apôtre saint Paul dit que nos corps seront rendus semblables à son corps de gloire. Et puis c'est aussi l'humanité glorieuse de notre Seigneur qui servira d'instrument à la divinité pour ressusciter nos corps au dernier jour. La première propriété, nous suivons l'ordre de saint Thomas d'Aquin, la première propriété est ce qu'on appelle l'impassibilité. On vous en a déjà parlé, c'est le fait que après la résurrection, notre corps ne pourra plus ni souffrir physiquement, ni être malade et ni mourir. Jésus ressuscité ne meurt plus, dit saint Paul. La deuxième propriété est la subtilité. Il faut s'y arrêter un instant, parce que cette subtilité ne veut pas dire que notre corps sera devenu une espèce d'esprit évanescent. Qu'est-ce que ça veut dire, la subtilité de notre corps après la résurrection? Eh bien, aujourd'hui, notre corps est parfois une gêne pour notre âme. Quand nous sommes fatigués, quand nous avons faim, etc., ben nous avons du mal à étudier, à lire, à écrire, etc. Notre corps, donc, nous gêne un peu. Voilà. Ou quand nous sommes malades aussi, ou quand nous avons mal à la tête, etc. Voilà. Il n'en sera plus ainsi. Une fois ressuscité, notre corps ne sera plus du tout une gêne pour notre âme. Mais, en même temps, tout en étant plus gênant pour l'âme, et donc en étant un petit peu comme un esprit, mais pas un esprit vraiment, seulement comme un esprit, parce qu'il ne gênera pas l'âme qui est un esprit, voilà. Eh bien notre corps, tout en ne gênant plus l'âme, sera quand même un vrai corps, comme le corps de notre Seigneur qu'on a pu toucher, que les apôtres ont pu manger, boire avec lui, l'apôtre Thomas a pu mettre ses mains dans les plaies de Jésus ressuscité. Alors, après la résurrection, notre corps serait capable de boire, de manger, etc. Il ne le fera pas parce que nous n'en aurons pas besoin, mais il le pourrait, comme notre Seigneur. Alors attention, il ne faut pas se tromper ici. Dans l'Évangile, on voit que notre Seigneur est apparu subitement au Cénacle, au milieu de ses apôtres, alors que les portes étaient restées fermées. Cela, ce n'est pas à cause de la propriété de son corps glorieux, ce n'est pas à cause de la subtilité de son corps glorieux. Nous avons vu que, malgré cette subtilité, le corps restait un vrai corps. Donc, s'il est un vrai corps, il ne peut pas passer à travers les murs. Impossible, il sera cogné par le mur. Et si notre Seigneur est apparu au milieu de ses apôtres, c'est pour une autre raison, c'est par un miracle. Un miracle de la toute-puissance divine. De la même manière que notre Seigneur, au jour de Noël, eh bien, est sorti du sein de la Vierge Marie sans porter atteinte à sa virginité. La troisième propriété des corps glorieux, après l'impassibilité, après la subtilité, c'est ce qu'on appelle l'agilité, c'est plus facile cette fois, le corps glorieux sera entièrement soumis à notre âme. À l'instant suivant, si nous avons décidé d'aller ailleurs, eh bien à l'instant suivant, nous y serons. Tout à l'heure, pour rentrer chez vous, vous irez à pied ou en voiture, évidemment, parce que votre corps n'a pas encore l'agilité. Eh bien, dans l'éternité, une fois ressuscité, nous serons à l'instant d'après là où nous voudrons être. Comme le dit le prophète Isaïe, les élus courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. Et encore dans le livre de la Sagesse, les élus seront comme des étincelles qui courent à travers le chaume. Enfin, la dernière propriété est la clarté. Notre Seigneur dit, les justes brilleront comme le soleil dans la maison de leur Père. Cette clarté sera due au rejaillissement de la gloire de l'âme sur notre corps. Comme à la transfiguration, notre Seigneur l'a montré quelques instants, miraculeusement, à ses apôtres. Il n'était pas encore glorifié, mais il l'a montré quelques instants. Et comme la gloire de notre âme dépend du degré de charité, dépendra du degré de charité que nous aurons eu à l'instant de notre mort, et qui sera celui de l'éternité, eh bien, cette clarté, cette luminosité magnifique sera plus ou moins intense selon le mérite de chacun, selon la charité de chacun. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile, dit saint Paul, ainsi en est-il pour la résurrection des morts. Le degré de gloire des âmes sera donc révélé par la gloire de leur corps, comme la couleur d'un objet est révélée par le cristal qui le contient. Alors tout ceci a des conséquences, tout ce que nous avons dit c'est pour plus tard évidemment, mais cela a des conséquences pour maintenant. D'abord, cette méditation sur l'état futur de notre corps doit nous faire réfléchir sur la façon dont nous traitons notre propre corps aujourd'hui. Sans l'idolâtrer, bien sûr, nous devons le respecter. Non seulement parce qu'il sert d'habitacle à une âme qui est le temple de la Sainte Trinité, mais aussi parce que sa vocation est d'un jour et pour l'éternité d'être spiritualisée. Donc, garder notre corps pur, le couvrir modestement, eh bien, c'est le préparer à sa vocation future, à sa glorification future. Et quand l'Église demande pour la vie chrétienne d'avoir un minimum de mortification corporelle, ce n'est pas par mépris du corps, ce n'est pas pour tuer le corps, mais c'est pour l'élever au-dessus de la bête, pour ne pas uniquement lui donner ce dont il réclame. C'est donc en vertu de sa très haute vocation. Et puis cette méditation sur les quatre propriétés des corps glorieux après la résurrection est aussi pleine d'enseignements pour la vie de notre âme aujourd'hui. Puisque les propriétés futures de notre corps ressuscité seront causées par le rejaillissement de la gloire de notre âme, cela veut dire que ces propriétés, elles se trouveront d'abord, mais sur un plan spirituel, dans notre âme. Alors examinons ces propriétés maintenant dans l'âme et nous aurons un exemple, un bel exemple de vie chrétienne à méditer pendant ce temps pascal. Nous avons vu, première propriété du corps, impassibilité, ne peut plus souffrir. Alors sur le plan spirituel, eh bien sur le plan spirituel, de la même manière qu'à la résurrection, le corps de notre Seigneur et le nôtre sont impassibles, ne pouvant plus être sujets à la souffrance physique. Pour l'âme, la grâce sanctifiante permet de ne plus être abattue par la souffrance, qu'elle soit physique ou spirituelle, mais de la dominer. La grâce sanctifiante permet de donner une valeur rédemptrice à la souffrance pour le péché, rédemptrice pour le péché, pour le nôtre et pour celui des prochains. La sainte impassibilité, écrit un chartreux, est cette disposition morale qui fixe l'âme dans le bon plaisir divin, à ce point qu'elle ne cesse d'y adhérer malgré les plus vives répulsions de la nature. C'est l'accueil doux et patient réservé à toute croix venant de Dieu parce qu'on y trouve un principe de sanctification et de salut. Deuxième propriété, la subtilité. Et bien de même que la subtilité fait du corps glorieux le parfait instrument de l'âme, il ne la gêne plus. Maintenant, sur le plan spirituel, vivons de la résurrection de notre Seigneur en étant d'une docilité toujours plus parfaite à ses moindres inspirations, aux inspirations du Saint-Esprit. Citons ici le père Kolb. Imaginons, dit-il, que nous sommes un pinceau dans la main d'un peintre infiniment parfait. Que doit faire le pinceau pour que le tableau soit le plus beau possible? Il doit se laisser parfaitement conduire. Il serait ridicule que le pinceau fasse des observations à l'artiste et qu'il ait la prétention d'améliorer ce que fait l'artiste. Mais si la sagesse éternelle, Dieu lui-même, se sert de nous comme instrument, nous ne pourrons faire le maximum et le plus parfait que si nous nous laissons complètement conduire par lui en tout. Ensuite, l'agilité. Par l'agilité, le corps glorieux peut passer d'un lieu à un autre en un court instant, sans être gêné par l'obstacle des distances. Eh bien, sur le plan spirituel, soyons nous-mêmes empressés à accomplir sans retard la moindre volonté de notre Père du ciel. Continuons avec le Chartreux. L'agilité spirituelle qui vient en nous de l'Esprit de Dieu, dit-il, n'est pas cet empressement inquiet, dissipant, présomptueux de l'âme qui ne réfléchit à rien et ne doute de rien. L'agilité que nous devons désirer acquérir ou augmenter en nous est la promptitude forte, sage et constante à faire ce qui est du service de Dieu. En d'autres termes, c'est la ferveur. Spiritu ferventes, être fervent par le Saint-Esprit, écrivait saint Paul aux fidèles de Rome. Enfin, la quatrième propriété des corps glorieux est la clarté. Sur le plan spirituel, maintenant, que le chrétien, régénéré par la grâce, brille au milieu de ce monde de péché par l'éclat de ses vertus. Encore le Chartreux, c'est l'âme qui illumine le corps ressuscité. Donc c'est de notre cœur que doit émaner le parfum de sainteté que nous avons à exhaler au dehors. Soyons des lumières ardentes et luisantes, ardentes par les affections, luisantes par l'édification que nous portons au prochain. Donc, en résumé, l'impassibilité des corps, maintenant sur le plan spirituel, courage et esprit surnaturel dans la souffrance, la subtilité, le corps qui ne gêne plus l'âme, sur le plan spirituel, ne gênons pas le Saint-Esprit, soyons lui dociles. L'agilité du corps glorieux, qui peut se déplacer là où il veut rapidement, maintenant, sur le plan spirituel, soyons empressés d'accomplir la volonté du bon Dieu. Et puis la clarté, sur le plan matériel pour les corps, sur le plan spirituel, rayonnons de l'exemple de notre vie. C'est l'apostolat de l'exemple dans le monde aujourd'hui. Voilà les quatre conséquences spirituelles d'une méditation que nous pouvons avoir sur la qualité des corps ressuscités, que nous arrivions, avec l'aide de ce temps pascal, à acquérir de mieux en mieux ces qualités de notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.